sur VOA Afrique.
Bonjour à tous, Yacouba Ouédraogo avec vous. Bienvenue dans le monde aujourd'hui. Au sommaire, en cette matinée du jeudi 26 décembre, hier, des millions de chrétiens ont célébré la fête de Noël. À l'occasion, le pape François a exhorté à faire taire les armes et surmonter les divisions dans le monde.
Que le Fils du Très-Haut soutienne les efforts de la communauté internationale pour faciliter l'accès de la population civile du Soudan à l'aide humanitaire.
En Guinée, les partis d'opposition et les organisations de la société civile ont annoncé des manifestations à partir du 6 janvier pour exiger le départ des militaires au pouvoir. Évasion massive d'une prison hier au Mozambique, plus de 1500 détenus ont fui d'un centre pénitentiaire de haute sécurité de Maputo dans la confusion post-électorale. Dans l'est de la République démocratique du Congo, les habitants de la commune de Lubero vivent dans une peur constante depuis la dernière offensive lancée dans la région par les combattants du M23.
La population vit dans la crainte, la peur au ventre.
Un sujet à suivre dans la partie magazine de cette édition. En sport, suite à ce jeudi, des matchs retour des éliminatoires du CHAN 2025. On en parlera avec Nanita Talani dans une dizaine de minutes, juste après l'économie. Mais d'abord, le journal. Hier, des millions de chrétiens ont célébré la fête de Noël. À l'occasion, le pape François a exhorté à faire taire les armes et surmonter les divisions dans le monde, alors que Noël est encore assombri cette année par les guerres. Le point avec Rosine Munesero.
Au Vatican, le souverain pontife, âgé de 88 ans, a invité à garder l'espérance tout en passant en revue les principaux conflits aux quatre coins de la planète lors de sa traditionnelle bénédiction Urbi et Orbi. Évoquant la situation humanitaire gravissime à Gaza, le chef des 1,4 milliard de catholiques a renouvelé ses appels à un cessez-le-feu et à la libération des otages israéliens aux mains du mouvement islamiste palestinien Hamas.
Je pense aux communautés chrétiennes en Israël et en Palestine, en particulier à Gaza, où la situation humanitaire est gravissime.
À la cara comunità di Gaza, dove la situazione umanitaria
qu'il y ait un cessez-le-feu, que les otages soient libérés et qu'une aide soit apportée aux populations épuisées par la faim et par la guerre.
Si aiuti la popolazione estremata dalla fame e dalla guerra.
Le pape a également appelé à faciliter l'aide humanitaire au Soudan, ravagé par 20 mois de guerre, où la famine qui touche des millions de déplacés risque de s'étendre, selon l'ONU. Le conflit a tué des dizaines de milliers de personnes et déraciné 12 millions de Soudanais, provoquant la plus grande crise de déplacement au monde, selon les Nations Unies.
Que le Fils du Très-Haut soutienne les efforts de la communauté internationale pour faciliter l'accès de la population civile du Soudan à l'aide humanitaire et pour entamer de nouvelles négociations en vue d'un cessez-le-feu.
Le pape a prié pour les familles de milliers d'enfants qui meurent d'une épidémie de rougeole en République démocratique du Congo et les habitants du Burkina Faso, du Mali, du Niger et du Mozambique. L'évêque de Rome s'est dit proche de la communauté chrétienne au Liban et de celle de Syrie en cette période si délicate marquée par un nouveau pouvoir islamiste et où les chrétiens craignent pour leur avenir.
Ici aux États-Unis, les présidents sortants Joe Biden et élu Donald Trump ont envoyé des messages de Noël différents. Pour son dernier Noël comme président, Biden a souhaité que le pays continue à rechercher la lumière de la liberté et de l'amour, de la bonté et de la compassion, de la dignité et de la décence. Joyeux Noël à tous, y compris aux merveilleux soldats chinois qui exploitent avec amour, mais illégalement, le canal de Panama, a déclaré de son côté Donald Trump qui menace de reprendre le contrôle du canal de Panama. Le président Joe Biden a qualifié hier de scandaleuse l'attaque russe massive contre les réseaux électriques ukrainiens le jour de Noël. Le but de cette attaque scandaleuse était de couper l'accès du peuple ukrainien au chauffage et à l'électricité pendant l'hiver et de mettre en péril la sécurité de son réseau, a déclaré Biden dans un communiqué. La Russie a lancé mercredi plus de 170 missiles et drones sur le système énergétique de l'Ukraine, une attaque inhumaine qui a causé la mort d'une personne selon le Kiev et laissé des centaines de milliers de foyers sans électricité ni chauffage le jour de Noël.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste de l'actualité, en Guinée, les partis d'opposition et les organisations de la société civile ont annoncé des manifestations à partir du 6 janvier pour exiger le départ des militaires au pouvoir. Cette décision, initiée par les forces vives, vise à instaurer une transition civile et la fin de la transition fixée au 31 décembre. Davantage avec Nanit Tanani.
Dans un communiqué publié hier, les forces vives de Guinée, un collectif regroupant les principaux partis d'opposition et d'organisation de la société civile, invite tous les citoyens guinéens, civils et militaires, de l'intérieur comme de l'extérieur, à se mobiliser avec la plus grande combativité pour exiger le départ du pouvoir des militaires et la mise en place d'une transition civile. Ces manifestations dans les rues et sur les places publiques commenceront le 6 janvier dans le Grand Conakry et continueront ultérieurement dans les préfectures de l'intérieur, ajoute le communiqué. Les forces vives ont par ailleurs réaffirmé leur volonté de ne plus reconnaître la junte à partir du 31 décembre, date de la fin de la période dite de transition. Les militaires au pouvoir avaient déjà fait savoir qu'ils manqueraient à l'engagement initialement pris sous la pression internationale de céder le pouvoir à un régime civil d'ici fin 2024. Il s'était également engagé à organiser un référendum constitutionnel avant la fin de l'année, qui ne s'est toujours pas tenu.
Évasion massive d'une prison hier au Mozambique. Plus de 1500 détenus ont fui d'un centre pénitentiaire de haute sécurité de Maputo dans la confusion qui a suivi la confirmation de la victoire du Frelimo au pouvoir. Le point avec Eddy Sangou.
C'est au total 1534 détenus qui se sont échappés de la prison de haute sécurité située à une quinzaine de kilomètres de la capitale. Les détenus ont fini par faire tomber un mur après que des groupes de manifestants se sont approchés du centre pénitentiaire et ont créé de la confusion et du bruit. Selon Bernardino Raphaël, chef de la police nationale, 34 détenus ont été tués et 15 blessés lors d'affrontements qui ont suivi avec les personnels pénitentiaires. Parmi les fugitifs figurent une trentaine de détenus liés aux groupes armés djihadistes qui sèment la terreur depuis 7 ans dans la province septentrionale du Cabo Delgado. 150 ont été rattrapés, mais les recherches se poursuivent. Le Conseil constitutionnel a confirmé lundi l'élection de Daniel Chapeau, candidat du Frelimo à la présidence avec 65,17% de voix, en dépit des irrégularités relevées par nombre d'observateurs. L'opposition réclame une justice électorale appelant à manifester pour dénoncer ce qu'elle qualifie d'élection volée. Deux mois de manifestations, des grèves et des blocages ont déjà coûté la vie à au moins 150 personnes au Mozambique, selon plusieurs bilans croisés d'ONG.
Au Kenya, un collectif de défenseurs des droits humains s'est inquiété mercredi du sort de trois jeunes influenceurs kenyans. Ces derniers, connus pour être critiques du pouvoir, ont été récemment enlevés et a dénoncé le collectif dans un communiqué. Les précisions avec Mohamed Oumfa.
Le groupe de travail sur les réformes de la police, Alliance d'organisations de défense des droits humains, a dénoncé dans son communiqué le silence persistant de l'État concernant le sort de Billy Mwangi, 24 ans, Peter Muteti, 22 ans, et Bernard Kavuli, 24 ans. Le collectif évoque aussi l'arrestation de Gabriel Soupit, détenu dans un commissariat, et la disparition d'un autre influenceur, connu sous l'identifiant Naomi, sur les réseaux sociaux. Si, comme l'a déclaré publiquement mardi le porte-parole de la police nationale, les enlèvements ne sont pas l'œuvre de la police, les agences de sécurité et de maintien de l'ordre doivent démontrer leur engagement en faveur de la justice en demandant des comptes aux responsables de ces enlèvements, ajoute le collectif. La Commission kényane des droits de l'homme a récemment dénoncé une vague sans précédent d'enlèvements et d'assassinats au Kenya depuis la violente répression policière de manifestations antigouvernementales en juin et juillet, lors desquelles plus de 60 personnes ont été tuées. L'ex-premier ministre kényan Raila Odinga et l'ex-vice-président déchu Rigathi Gachagua ont également appelé le gouvernement à mettre un terme aux disparitions.
107 migrants en détresse en mer alors qu'ils tentaient de gagner l'Angleterre ont été secourus hier par les moyens français. selon un bilan de la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord. Sur l'ensemble de la journée, 12 opérations d'assistance et de sauvetage ont été coordonnées par le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage Griné. Au moins 73 candidats à l'exil sont morts en tentant la traversée maritime pour rejoindre l'Angleterre depuis le début de l'année, selon la préfecture du Pas-de-Calais. Cela fait de 2024 l'année la plus meurtrière depuis l'apparition du phénomène de small boats, entendez petits bateaux, dans la Manche en 2018. 20 ans après le tsunami le plus meurtrier de l'histoire, survivants et proches de victimes doivent se recueillir ce jeudi dans les pays de l'océan Indien où plus de 220 000 personnes ont péri sous l'effet des immenses vagues qui se sont abattues sur la côte. Le 26 décembre 2004, un séisme de magnitude 9,1 au large de la côte ouest de l'île indonésienne de Sumatra a engendré d'énormes vagues balayant l'Indonésie, le Sri Lanka, l'Inde, la Thaïlande et 9 autres pays de l'océan Indien. Les vagues ont aussi atteint l'Afrique, tuant 300 personnes en Somalie, mais aussi plus d'une centaine aux Maldives. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Nous passons maintenant à la page économie. C'est la Minute Éco avec Mohamed Oumfa.
Au Tchad, le gouvernement a décidé de céder une partie de sa participation au capital de la Sonacim, Société nationale de ciment. Cette décision du gouvernement tchadien s'inscrit dans un contexte de crise persistante du secteur de la construction, notamment en raison de la hausse continue des prix du ciment. Cette hausse est attribuable en partie aux difficultés de la Sonacim et à la production insuffisante de ciment. La Banque des États de l'Afrique centrale annonce la mise en circulation d'une nouvelle gamme de pièces de monnaie type 2024, selon un communiqué publié à l'issue de son conseil d'administration du 18 décembre 2024. La nouvelle gamme devrait, entre autres, contribuer à résoudre la pénurie persistante des pièces de monnaie dans la zone, un problème qui complique les transactions quotidiennes et met une pression sur l'économie informelle. L'IFC, Société financière internationale, ambitionne de doubler ses investissements au Sénégal, a fait savoir le directeur général de cette institution, Maktar Diop, en marge d'une audience mardi avec le président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye. Au cours du dernier exercice fiscal, l'IFC a engagé environ 615 millions de dollars au Sénégal sous forme de prêts pour son propre compte, tout en mobilisant des ressources auprès d'autres partenaires. Ce montant représente un record pour l'institution dans le pays.
Sans plus tarder, nous retrouvons Nanit Talani pour la page des sports. Bonjour Nanit. Suite ce jeudi des matchs de qualification pour le CHAN 2024.
Le Burundi affronte l'Ouganda en match aller, suivi par un autre affrontement entre le Niger et le Togo demain vendredi, qui avait fait un score nul de 1-1 lors du match aller des qualifications de cette compétition qui se déroulera du 1er au 28 février 2025 au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda. Notons qu'après le Maroc, qualifié sans jouer suite aux multiples forfaits en zone Afrique du Nord, c'est le Soudan qui a validé son billet en deuxième position. Déjà vainqueur 2-0 à l'extérieur à l'aller, les Crocodiles du Nil avaient à nouveau pris le meilleur sur l'Éthiopie 2-1 qu'ils recevaient à Benina en Libye. Des équipes phares telles que le Sénégal, tenant du titre, le double champion congolais, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Cameroun, le Nigeria et la Guinée vont jouer ce week-end après des résultats variés lors des matchs aller.
Parlons à présent de la finale du tournoi CECAFA des moins de 17 ans. L'Ouganda affronte la Tanzanie au stade Hamsa Kampala demain vendredi.
Les barrages pour les 3e et 4e places entre le Soudan du Sud et la Somalie, ainsi que la finale opposant la Tanzanie à l'Ouganda, se disputent bel et bien ce 27 décembre 2024 au stade Hamza Nakivubo à Kampala, la capitale tanzanienne. Les Serengeti Boys de la Tanzanie ont triomphé 4-0 contre le Soudan du Sud cette semaine, tandis que l'Ouganda a battu la Somalie 4-1. De son côté, l'Ouganda, pays hôte, a surclassé la Somalie pour décrocher son billet pour ce tournoi l'année prochaine.
Et pour finir, le site du futur stade olympique Akibuya a été remis aux entrepreneurs pour la CAN 2027. Les travaux débuteront à Lira.
Les préparatifs pour la CAN 2027 avancent avec la remise officielle du site du stade Akibuya aux entrepreneurs à Lira. Le projet, confié à l'entreprise égyptienne Samco, inclut un stade de 20 000 places, des installations sportives et une piscine semi-olympique pour un coût de 129,7 millions de dollars. La livraison est prévue dans 20 mois avec un accent sur l'utilisation de la main-d'œuvre locale conformément à la politique Buy Uganda, Build Uganda. Ce stade, aux normes internationales, va jouer un rôle clé pour la CAN 2027 co-organisée par l'Ouganda, le Kenya et la Tanzanie.
Merci Nanit.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Yacouba Ouédraogo, toujours avec vous, pour vous présenter les dossiers du jour. Dans l'est de la République démocratique du Congo, les habitants de la commune de Lubero vivent dans une peur constante depuis la dernière offensive lancée dans la région par les combattants du M23. Malgré la présence des forces armées de la RDC, les habitants disent être inquiets car la ligne de front se rapproche. Récit Mouamadou Mfa.
Un calme trompeur règne dans les rues de Lubero, niché au creux d'immenses collines boisées. La cité de quelques 100 000 habitants dans l'est de la RDC est menacée par une offensive des rebelles du M23.
La population vit dans la crainte, la peur au ventre. Vraiment, on ne sait pas comment se comporter parce que j'estime que la plupart des gens ont déjà emballé la valise. Hein, parce que du coup, du moment que ça peut taper, tout le monde s'enfuit. Donc, nous sommes dans la peur, ça c'est vrai.
Le mouvement du 23 mars a progressé de plusieurs dizaines de kilomètres ces derniers jours. La ligne de front n'est plus loin, mais le colonel Alain Kiwewa se veut rassurant.
L'ennemi est à moins de 50 kilomètres d'ici, donc c'est une menace également. Mais nous, comme je vous ai dit, nous avons confiance à nos forces armées, à nos forces de défense qui sont là. Et nous avons confiance qu'ils vont défendre cette commune de Lubero.
Depuis novembre 2021, la rébellion s'est emparée de vastes pans du territoire dans l'est de la RDC, riche en ressources naturelles. La dernière offensive a été lancée peu avant l'organisation à Luanda d'un sommet censé rétablir la paix, mais qui a avorté faute d'accord. Pour l'heure, dans le centre de Lubero, les commerçants continuent à tenir leurs étals, mais jusqu'à quand?
En tout cas, je perds. Parce que ce que je suis en train d'attendre, selon les informations, mes frères qui sont là-bas, ils nous ont déjà fui. Et là où ils ont pris refuge, ils sont en train de me faire des textos que vraiment, en tout cas, nous sommes à brousse.
Au moins 100 000 déplacés ont fui les combats depuis le 2 décembre, selon l'ONU. Les forces gouvernementales sont accusées de mettre les villages à sac pendant leur retraite.
Les pillages nous font énormément souffrir et ceux qui nous pillent sont nos militaires. Nous n'avons rien à dire car d'un côté, nous avons peur du M23 et de l'autre, nous avons peur de nos militaires. Nous ne savons plus quoi faire, nous ne savons plus où nous réfugier. Avoir peur de l'ennemi, avoir peur de notre, on a maintenant des problèmes cardiaques.
Beaucoup estiment que les chefs militaires sont responsables de la déroute des soldats congolais et veulent prendre leur destin en main.
La complicité avérée, on sait, de notre armée qui nous a poussé, nous résistants, de créer des replis stratégiques. Mais je peux vous rassurer que, quelle que soit l'avancée de l'ennemi, mais nous allons résister et nous sommes en train de nous préparer pour voir comment barrer la route à l'ennemi.
L'armée congolaise a annoncé vendredi un vaste remaniement dans son état-major, mais certaines milices pro-Kinshasa sont elles-mêmes soupçonnées d'avoir replié leurs troupes pour faciliter l'avancée du M23. Dans ce climat de défiance et de suspicion, nombre d'habitants de Lubero se disent persuadés que des informateurs de l'ennemi ont infiltré la ville.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en RDC, à Lubumbashi évidemment sur le 102.8 FM.
Au Soudan du Sud, les inondations saisonnières de plus en plus dévastatrices forcent des milliers de personnes à fuir leur village et à chercher refuge dans des zones de plus en plus isolées. Les familles déplacées font face à une lutte quotidienne pour survivre, manquant de nourriture, d'abris et de services essentiels. Le PAM et d'autres acteurs humanitaires tentent de fournir une aide d'urgence, mais les défis restent énormes dans un pays déjà dévasté par des années de guerre et de crise économique. Récit Nanit Talani.
Des bovins à longues cornes pataugent dans les terres inondées et grimpent une pente le long d'un canal devenu refuge pour les familles déplacées au Soudan du Sud. La fumée de bouse brûlée s'élève près de maisons, de boue et de paille où vivent désormais des milliers de personnes après que les inondations ont dévasté leur village, le transformant en marécage. Niabouot Réat Kouor, mère de famille.
À Gorouaï, il y avait trop d'inondations. Elles ont détruit notre ferme et nous ont déplacés pour de bon. Elles ont détruit notre terre et tué notre bétail. Lorsque nous avions été déplacés de notre maison, nous n'avions que des plantes sauvages à manger.
Le canal de Jonglé, qui devait à l'origine augmenter le débit du Nil vers l'Égypte, est devenu un refuge temporaire pour de nombreuses familles. Mais les conditions de vie y sont extrêmement difficiles. Écoutons encore Niabot Réat Kouo.
Nous ne survivons que grâce à l'aide alimentaire que nous recevons. Une fois qu'elle est terminée, nous partons à la recherche de feuilles sauvages et de légumes. Nous, les femmes, nous allons chercher des nénuphars dans les marais et nous revenons au bout de 2 semaines.
La région, sous le contrôle du MPLS, fondée par Riek Machar, est très difficile d'accès. À Yaoundé, le siège du comté, n'est accessible qu'après 6 heures de marche dans les eaux à hauteur de taille. La nouvelle communauté de Padjek est complètement isolée, sans réseau de téléphonie mobile ni présence gouvernementale. John Kimemia, coordinateur des largages du PAM.
Nous livrons de la nourriture par largage aérien et avant de procéder à la livraison, nous devons préparer le terrain pour une zone de largage. Dans le cas présent, la zone de largage n'était pas clairement définie. Nous avons donc dû demander l'aide de la communauté pour dégager la zone de largage.
John Kimemia explique que l'accès par bateau est impossible à cause du niveau d'eau trop bas.
Il n'y a pas d'accès pour le moment par route ou par bateau à partir du canal. L'eau est si basse qu'elle ne peut pas contenir les bateaux qui transportent beaucoup de nourriture et les routes ne sont pas praticables.
Le PAM a enregistré plus de 69 000 personnes dans la région recevant de l'aide alimentaire. Mais les rations ont été réduites de moitié en raison du manque de financement international. En parallèle, la crise économique, exacerbée par la guerre civile et l'interruption des exportations de pétrole, a aggravé la situation. Jong Dok Tout, responsable clinique.
Nous manquons de services médicaux. Le nombre d'accouchements est faible parce qu'il n'y a pas d'accès. Il y a beaucoup d'eau.
Face aux inondations catastrophiques et à l'isolement croissant, ces habitants du Soudan du Sud continuent de dépendre de l'aide humanitaire pour survivre. Cependant, les défis restent immenses et une action internationale renforcée est cruciale pour répondre à cette crise humanitaire.
En Côte d'Ivoire, des éclats de couleurs vives ravivent la toile urbaine du quartier du plateau d'Abidjan, le cœur économique du pays. Les murs de la capitale économique ivoirienne se parent de graffiti. Là, des peintures murales est de plus en plus acceptée par les résidents et les artistes s'y donnent à cœur joie. Alexandrine Oloyon.
Auparavant, les Ivoiriens considéraient les graffitis avec dédain et les acteurs étaient passibles de poursuites judiciaires. Mais ce point de vue est en train de changer et les peintures murales de graffiti sont de plus en plus fréquentes sur les murs des villes. Des fresques murales imposantes et des graffitis complexes ornent désormais l'extérieur des hôtels internationaux et des grandes artères.
À Paris, les gens, ils vont nous regarder, ils sont blasés. Ils vont regarder quelqu'un peindre, ils vont être, encore un pollueur visuel, quelqu'un qui vient faire un truc, alors qu'ici, c'est généralement bien pris et moi j'adore partager, moi pour ma part, c'est pour ça que je parle aussi.
Les murs d'Abidjan attirent des artistes nationaux et internationaux. En novembre, des artistes de rue du monde entier ont convergé vers la ville pour la première édition du festival Ivory Graph Graffiti. Pendant 2 semaines, ils ont transformé des murs insipides en œuvre d'art de 300 mètres de long.
On a envie d'œuvrer pour notre pays et son développement culturel. Donc comme c'est le premier festival de street art en Côte d'Ivoire, on est assez fiers. On a la chance d'avoir parmi nous des gens qui ont une expérience. Au Sénégal, ils ont à plus de 15 ans de festival qui ont invité des artistes internationaux.
Dans les rues d'Abidjan, le travail des graffeurs ne passe pas inaperçu. Les passants admirent les artistes à l'œuvre et approuvent leurs efforts pour revitaliser le centre urbain.
C'est une belle initiative parce que quand il y a les graffitis sur le mur, et ça permet un peu de sensibiliser certaines personnes qui se permettent d'uriner sur les murs et faire de n'importe quoi. Et ça embellit aussi la ville.
Au-delà d'embellir la ville, la street art ou l'art de rue contribue aussi à faire connaître les artistes. Certains d'entre eux, comme Angelo Guessant, envisagent désormais de travailler sur la transmission de leurs arts en amenant d'autres jeunes à s'intéresser à l'art urbain.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Partout dans le monde, des parents fiers se rassemblent pour regarder leurs enfants se produire lors des concerts scolaires de fin d'année. En Haïti, où marcher dans les rues alors que les coups de feu résonnent dans toute la ville est un acte de défi, les enfants de la seule école de musique de la capitale, Port-au-Prince, font preuve de bravoure et de dévouement à leur art et aspirent à un avenir de musiciens et de chanteurs. De nouveau, Alexandrine Choloyon.
Alors que des centaines d'écoles à travers le pays ont dû fermer leurs portes en raison de la violence généralisée des gangs et du manque de fonds, l'école Soleil d'Espoir, la seule école de musique de Port-au-Prince, a continué d'attirer des mélomanes passionnés. L'école est gérée par l'ONG Community Organized Relief Effort, qui a commencé par enseigner aux enfants des centres d'hébergement pour personnes déplacées. Yvenson Gentil, un étudiant, fait le long trajet à pied de son quartier à l'école au moins deux fois par semaine.
La situation du pays telle qu'elle me parvient a logiquement un impact, mais je ne la laisse pas impacter mon avenir.
Gentil a commencé à apprendre la guitare avec son père lorsqu'il était enfant, mais il rêve maintenant de devenir musicien professionnel.
Pour moi, la musique me donne un sens du divin. Elle m'apporte beaucoup de joie et d'inspiration. Elle m'échange et me permet de changer ma façon de penser et de me comporter.
Les écoles de la capitale haïtienne et d'ailleurs s'effondrent à mesure que la violence des gangs aggrave la pauvreté et perturbe les services gouvernementaux de base, alors que le système éducatif public est confronté à un déficit de 23 millions de dollars selon l'ONU. Les familles hésitent à envoyer leurs enfants à l'école et encore moins à les laisser jouer dehors. Mais selon Kevin Marc du Verso, professeur de musique, la musique est importante pour les enfants afin de les aider à faire face à la situation du pays.
Mais en général, la musique permet tout.
La musique, en général, aide à soulager les frustrations que nous avons, que beaucoup d'entre nous ressentent dans notre pays. Elle aide également à traduire les sentiments que nous éprouvons tous, qui peuvent être à la fois négatifs et positifs, mais même les sentiments négatifs peuvent donner naissance à des belles musiques.
On estime que les gangs contrôlent jusqu'à 85% de Port-au-Prince et se disputent quotidiennement les territoires, avec des milliers de morts cette année. Les viols et les enlèvements ont également augmenté, selon les autorités.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live, en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h à 21h, temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h, temps universel, sur VO Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
C'est ici que s'achève cette édition du Monde aujourd'hui. Merci de rester fidèle au programme de VO Afrique. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Au micro, je suis Yacouba Ouedraogo, Georges Léonard Sagno à la réalisation. Ainsi va le monde aujourd'hui. L'info continue sur voafrique.com ainsi que sur nos pages Facebook, YouTube, X et Instagram. Je vous souhaite une excellente journée en compagnie des programmes de VOA Afrique.
Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry. 92.3 FM, Radio Wentanga. Wayeguya, Burkina Faso. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui, sur V.